Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Et oui, il est l'heure de retrouver le prof Patrick tout de suite, qui avait commencé une nouvelle série la semaine dernière. Bonjour.
C'est bien ça. Salut Mathieu, salut les auditeurs. On a commencé une série qui s'appelle Steve Jobs n'a pas changé le monde. Bon, il n'y aura que deux parties. Hein. C'est la partie 2, mais ça s'arrête là.
Très bien. Bon, bah, allons-y pour cette partie 2 alors.
Eh oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déconstruit le mythe de l'entrepreneur grâce à un livre écrit par Anthony Galuzzo, un livre qui s'appelle « Le mythe de l'entrepreneur ». Anthony Galuzzo, maître de conférence à l'université de Saint-Étienne, un voisin, donc, et c'est ce livre qui nous sert de fil rouge. Donc, on a expliqué dans la première partie que Steve Jobs n'avait pas changé le monde, contrairement aux affirmations de ses fans, qu'il s'était contenté d'accompagner le changement du monde. Alors, aux premières loges, c'est un fait, hein, d'accord ? Parce que non, il ne s'agit pas de faire du Steve Jobs bashing ou de jouer les haters, hein, je laisse ça aux réseaux sociaux. Il s'agit juste, dans cette chronique, de regarder le monde dans sa réelle complexité, dans sa richesse, qui est fondée sur le collectif, sans se laisser endormir par des comptes à dormir debout.
Voilà. Ouais.
Donc, on a détaillé, semaine dernière, quatre points importants. On a dit, un, Steve Jobs n'a pas inventé l'idée de l'ordinateur personnel. Cette idée existait déjà, était en train d'apparaître sans lui. Dans les années 70. Deuxième point, Steve Jobs n'est pas un génial entrepreneur qui s'est fait tout seul. Déjà, il avait un associé encore plus génial que lui sur le plan technologique, c'est Steve Wozniak. Il avait aussi un parrain, capital risqueur, qui lui a permis de démarrer l'entreprise, c'est Mark Markula. Et enfin, il a eu l'apport intellectuel d'un club qui s'appelait le Homebrew Computer Club, qui rassemblait quelques petits fans d'informatique. Et il s'est beaucoup, lui et Wozniak, se sont beaucoup appropriés les idées de ce Computer Club. Enfin, troisième point, il a eu aussi la force de frappe incomparable des salariés de la Silicon Valley qui ont bien voulu vivre l'aventure avec lui. Et quatrième point, cette incroyable Silicon Valley n'a existé que parce qu'elle a été nourrie, choyée, couvée par les milliards déversés pendant 4 décennies par le ministère de la Défense, donc par l'État américain. Voilà, on en est là, Mathieu. On a dit l'essentiel, mais en fait, on va rajouter une ou deux petites choses qui sont intéressantes. La première chose qu'on va rajouter, c'est ça va nous permettre de rendre hommage à la qualité et la subtilité de l'analyse qu'a fait Anthony Galuzzo dans son livre « Le mythe de l'entrepreneur ». Puisqu'en fait, on va pouvoir répondre principalement à une question, ok d'accord, mais pourquoi c'est Steve Jobs et Steve Wozniak précisément qui ont été ces entrepreneurs géniaux et pas d'autres ? D'accord ? Alors pour répondre, on va faire un peu de sociologie. Les générations aux États-Unis qui sont nées dans les années 20 et les années 30 du 20e siècle n'ont pas trop rigolé. Hein, se sont tapées quand même la terrible crise des années 30 et ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Par contre, les générations qui sont nées dans les années 40 et 50, ça a été des générations dorées. En fait, puisqu'elles ont bénéficié d'une économie qui est devenue dominante dans le monde et d'un État qui réalisait des investissements massifs dans l'appareil productif. Elles ont profité, ces générations, de salaires plus confortables et de positions sociales plus favorables, même que les cohortes suivantes qui sont nées dans les années 60 et 70. D'accord ? Mais Anthony Galuzzo va encore affiner cette analyse, puisque là on est sur des générations, car années 40 et 50 ça fait beaucoup, et voici ce qu'il a découvert. Une grande partie des entrepreneurs qui se sont enrichis en créant une entreprise dans le domaine de l'informatique personnelle, dans ces années-là, Bill Gates, Paul Allen, Steve Ballmer, Eric Schmidt, Bill Joy et Steve Jobs et Wozniak, eh bien ils sont tous nés, devine quoi, entre 1953 et 1956, dans la Silicon Valley. Donc des années précises et un lieu précis du timing parfait. Je vais m'expliquer. Tous ne venaient pas de milieux riches, mais ils venaient de milieux de classe moyenne aisée. Et ils ont bénéficié de la transmission d'un capital culturel très riche qui les a poussés dans l'aventure entrepreneuriale. On va revenir sur Steve Jobs pour vraiment illustrer ça. Steve Jobs, il aperçoit ses premiers ordinateurs lorsqu'il visite la NASA et Hewlett-Packard, lors de visites scolaires. Dans les zones résidentielles où il habite, se concentrent des techniciens de très haut niveau, des ingénieurs Hewlett-Packard, des experts en électronique, des ingénieurs Lockheed, etc. Steve Jobs, il a un voisin de sa famille, qui est un ingénieur chez HP, qui s'appelle Larry Lang, et c'est ce voisin qui va l'initier à la radio amateur et aux appareils électroniques à assembler soi-même. Larry Lang va faire entrer Steve Jobs dans le club des explorateurs HP, où les enfants des salariés d'HP reçoivent des cours d'électronique par les employés eux-mêmes d'HP, Hewlett-Packard. Steve Jobs va assister au cours de l'ancien pilote de l'US Navy, John McCollum. Pardon. Steve Jobs et Steve Wozniak ont donc reçu un double apprentissage formel et informel, entièrement tourné sur l'électronique et l'informatique. Ouais. Les deux amis disposaient en permanence de composants électroniques, de câbles, de tout un tas de petits joujoux, entre guillemets. excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et avec ça, ils s'amusaient, ils bricolaient des radios, des talkie-walkies, des antennes, etc. Des magasins d'électronique importants étaient présents près de chez eux. Steve Jobs a travaillé dans un magasin qui s'appelle Altec, une chaîne, durant son adolescence, qui lui a permis de parfaire sa connaissance des différents appareils et instruments électroniques. Alors, revenons à cette histoire de timing parfait pour vraiment être précis. Steve Jobs et Steve Wozniak ont eu 20 ans pile au milieu des années 70. Tout comme Bill Gates, tout comme Paul Allen, tout comme Steve Ballmer, les trois qui ont fondé Microsoft. Leurs aînés les plus proches, qui étaient nés entre 50 et 53, eh bien, ils étaient déjà devenus ingénieurs informatiques à ce moment-là. Ils étaient déjà insérés professionnellement, ils avaient une carrière confortable. Ils étaient donc moins enclins à prendre le risque de se lancer dans la création d'entreprises. Leurs cadets les plus proches, ceux qui sont nés après 1956, eh bien, qui sont aussi passionnés d'informatique comme eux, hein, bien sûr, ils sont trop jeunes au milieu des années 70. Quand ils vont arriver au bon âge, à 20 ans, eh bien, les premières entreprises dominantes de ce secteur ont déjà émergé. C'est donc un timing hyper précis en quelque sorte. Le timing parfait, c'est celui des générations nées entre 1953 et 1956 qui ont grandi dans la Silicon Valley, de milieux aisés mais pas de milieux riches. Parce que les enfants des milieux riches, ils ne créent pas d'entreprise, ils reprennent l'entreprise de papa.
Et ouais.
Eh mais bien sûr. Ils ont bénéficié de cet environnement exceptionnel et ils arrivent à la vingtaine, puis le moment où se constitue une nouvelle industrie et où il y a une opportunité, un peu comme le gagnant du ticket du loto, de créer des entreprises dans ce domaine. Le champ est ouvert. Voilà Mathieu, on pourrait rajouter beaucoup de choses, car le livre d'Anthony Galuzzo est plein de surprises, c'est pour ça que je vous encourage à le lire, d'accord ? Disons juste, pour compléter, que dans ce storytelling de l'entrepreneur, eh bien, on peut tout à fait rajouter un méchant. Eh oui, un méchant, comme dans un bon vieux film du Marvel Cinematic Universe. Par exemple, le méchant de Steve Jobs, c'est Bill Gates. Parce que c'est la figure du capitaliste contre l'entrepreneur. D'accord ? Créer un méchant, c'est toujours bien pour détourner sur le méchant les critiques qu'on voudrait porter au système capitaliste. Et puis, ça parle inconsciemment aux gens. Hein. Je fais une référence à l'analyse transactionnelle, eh bien, y a une notion qu'on appelle le triangle dramatique qui oppose toujours un persécuteur, dans ce cas-là, ce sera Bill Gates, une victime, c'est vous et moi, et un sauveur, Steve Jobs. Donc, ça parle à l'inconscient des gens, le méchant. On pourrait citer aussi l'incontournable Joseph Campbell, qui a écrit un livre célébrissime, Le héros aux mille et un visages, en 1949, et qui a détaillé le premier, la structure des récits héroïques.
Oui.
C'est très connu, hein, dans les jeux, partout c'est connu ça. Les origines obscures, l'initiation, l'appel de l'aventure, la gloire précoce, la trahison, la chute, l'exil, le retour en gloire, la mort prématurée, vous avez le timing complet de la vie de Steve Jobs.
Ah ouais, ça marche aussi pour
moi. Ah ouais, ça marche parfaitement. On aurait pu aussi décortiquer la deuxième période de Steve Jobs, celle des années 90-2000, qui a fait sa légende. Et on aurait montré, par exemple, que l'idée de l'iPod, l'idée géniale de l'iPod, eh bien, elle vient d'un ingénieur britannique, Ken Kramer, qui l'a conçue en 1979. Et qui a attaqué Apple en 2000 pour copie illégale, en justice. Eh ouais. Mais en fait, je voudrais plutôt terminer en revenant sur ce que j'ai dit au début de ma première chronique. Les belles histoires édifiantes à la Steve Jobs ont une fonction politique, celle de nous faire avancer tous ensemble sans trop faire de vagues, sans remettre en cause le pouvoir et ceux qui le détiennent.
Ouais.
Pour cela, et parce que c'est un mythe américain d'abord, on va revenir aux États-Unis des fondateurs. Les fondateurs, c'est le 17e, 18e siècle. C'est un pays de petits propriétaires terriens, d'artisans, de boutiquiers, qui poursuivaient un idéal d'autonomie et d'indépendance. Sauf que le 19e siècle passe par là et transforme complètement ce pays. Ça devient, avec la révolution industrielle, un pays qui est une puissance industrielle où quelques entreprises surpuissantes exercent un contrôle énorme sur une grande masse de travailleurs prolétarisés. Comment on fait passer la pilule aux Américains de ce changement profond, hein, de la nécessaire soumission au nouveau maître? Eh bien, on utilise le mythe de l'entrepreneur. On va faire de ces entrepreneurs les héritiers des valeurs de travail incessant, de volonté, de discipline, de frugalité des premiers fondateurs. On va dire c'est eux les héritiers. Et on monte donc au pinacle des nouvelles légendes. Les premiers représentants du mythe de l'entrepreneur, ça va être Carnegie, Andrew Carnegie, ça va être Thomas Edison, George Westinghouse, etc. Et c'est... Les entrepreneurs, ces nouvelles stars en quelque sorte, vont être utiles pour contrer la montée en puissance des mouvements anarchistes et socialistes qui agitent le monde ouvrier fortement aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc on a ces entrepreneurs, on a en face la figure du mauvais capitaliste qui est déjà là, JP Morgan, c'est la finance, et ça permet de tenir tranquille les moutons avec l'aide de la presse américaine qui est bien sûr contrôlée par ces mêmes entrepreneurs milliardaires. Voilà. J'en ai terminé, Mathieu. Steve Jobs est un entrepreneur, c'est vrai, mais s'il n'avait pas existé, d'autres l'auraient remplacé et le monde aurait été strictement le même. Mmh. Steve Jobs n'a pas changé le monde. Le monde est d'abord une construction collective où des hommes émergent parfois, mais où personne n'est irremplaçable. J'ai fini, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick. À très bientôt, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ensemble sur Calade.